France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Délégué général de La République En Marche. La situation du Covid en France, une dégradation manifeste, a dit hier le Premier ministre. Jean Castex, a-t-il apporté toutes les réponses qui convenaient?
Oui, je le crois, parce que on l'a compris maintenant, les réponses qui conviennent, ce n'est pas forcément d'avoir un protocole uniforme dans tout le pays, et puis depuis Paris, décider de l'application des mesures telles qu'elles devraient être dans tous les coins de la France. Je crois qu'il y a de l'intelligence dans la façon de gérer cette crise. Nous, collectivement, avons appris beaucoup dans cette première phase de crise sanitaire, notamment de faire confiance aussi au terrain, au local, pour adapter les mesures. C'est la philosophie qui est la nôtre. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est un reconfinement généralisé. Cela, on en a vu les conséquences, la dureté dans nos vies intimes, quotidiennes, économiques, sociales, au final. Donc je crois que les mesures qui sont prises, elles sont des mesures intelligentes parce qu'elles font confiance au territoire.
Charge aux préfets, charge aux élus locaux de s'adapter à l'évolution de la crise. Les leçons ont été tirées de cette gouvernance que l'on qualifiait de trop verticale il n'y a pas si longtemps.
Je le crois profondément. Cette crise, elle nous a changé. Elle a changé la façon d'exercer la pratique du pouvoir. On a vu que le couple, si je puis dire, qui a fonctionné pendant cette crise, c'était le couple maire-préfet. C'est-à-dire le préfet pour l'autorité de l'État, pour la cohérence de ce que nous faisions, et puis le maire pour l'intelligence du terrain. Je crois qu'il faut garder cette manière de fonctionner.
Sur la priorisation des tests, est-ce que ça n'arrive pas un peu tard, comme on l'a entendu depuis hier, dans la bouche de quelques médecins, après l'intervention de Jean Castex?
Vous savez, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on disait, est-ce qu'on sera capable d'arriver à tester suffisamment massivement? Nous avons montré collectivement, là aussi, que la France, rapidement, pouvait être un des pays qui testait le plus au monde. Plus d'un million de tests par semaine. Mais le deuxième enseignement, c'est qu'il faut tirer les conséquences de ce qui ne fonctionne pas. Et force est de constater que dans les 2-3 dernières semaines, on voyait bien qu'il y avait un engorgement, les gens le constataient. Ça ne servait à rien de dire le contraire. Et donc, là aussi qu'il fallait ajuster, avoir ce système de fil prioritaire. Là aussi, je crois que c'est du bon sens.
C'est-à-dire, on a pas
et
bien
ce sont
compris
aussi les enseignements de la crise.
Sur ces fils prioritaires, on ne comprend pas bien sur quels critères il y aura des lignes prioritaires. Il suffit de se déclarer moi prioritaire et puis je prends la file de droite plutôt que la file de gauche?
Bon, d'abord,
C'est hors politique ce que vous dites, droite et gauche.
C'est évidemment hors politique.
On pourrait en sourire si effectivement la situation n'était pas terriblement inquiétante aussi pour la suite. Mais je crois que ce qui est important, c'est de continuer à utiliser le « nous » que j'utilisais tout à l'heure. Les Français sont exemplaires pendant cette crise. Moi, je vois, les gens respectent, portent le masque. Eh bien, faisons confiance aussi à cette intelligence-là pour dire « si j'ai des symptômes avérés, alors je peux demander à faire partie de ces créneaux prioritaires ». Et ces tests, ils ne sont pas faits pour tous les 3 jours, alors qu'on n'a pas de symptômes, on n'est pas qu'à contact.
Donc il faut faire confiance aux Français, finalement.
Mais vous trouvez qu'ils sont tous exemplaires?
Aussi un des enseignements
de la crise. Vous les trouvez tous exemplaires?
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions.
Moi, je suis passée devant une terrasse, pas très loin d'ici, hier à 18h.
On a tous ces expériences.
Il y avait beaucoup de jeunes, aucun n'était masqué.
Moi, je crois qu'il faut féliciter les Français, sincèrement. Depuis le confinement, qui nous a collectivement sauvés, qui a sauvé nos aînés particulièrement, jusqu'à maintenant, où c'est difficile de s'imposer cette rigueur-là quotidienne.
Oui, mais les aînés, c'est quand même un cas
dans Paris ou ailleurs, je trouve que les gens portent le masque.
Ouais, ça, c'est pour le fond des mesures annoncées hier. Sur la forme, on a cru hier que les mesures seraient annoncées d'abord par le chef de l'État, puis on nous a dit que ce serait finalement le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ça a été le Premier ministre et sa parole solennelle. Et c'était prévu d'abord à la mi-journée, puis à 17h, à 16h, puis 17h, finalement 17h30. On a le sentiment tout de même d'une improvisation sur la maîtrise de l'agenda. Comment est-ce que vous expliquez ce flottement qui revient régulièrement dès que l'on aborde la méthode Macron?
Oh, je trouve un petit peu dur. Il y avait un conseil de défense qui était prévu hier. Il a été tenu hier. Les mesures ont été annoncées dans la journée, 17h, 17h30. Au fond, l'important, c'est que les choses aient été dites clairement. Je crois que cela valait le coup, d'une certaine façon, d'avoir un point de rendez-vous qui rende un peu solennel aussi le point de situation sur le virus.
Mais tout ça pouvait être décidé avant. La solennité pouvait être décidée il y a 2 jours.
Mais cette situation,
on a l'impression d'avancer en même temps qu'on découvre.
Elle est exceptionnelle. Et les questions, je crois, aussi que les Français attendent de leurs gouvernants, mais qu'ils montrent aussi de l'agilité dans cette période, qu'ils se posent les questions, qu'ils adaptent la situation. Il fallait faire beaucoup plus de tests. On fait beaucoup plus de tests. Le système est engorgé parce que ça génère justement de l'attente, de l'envie. Il faut créer des files prioritaires. On crée des files prioritaires. Tout ça, ce sont des questions que le gouvernement se pose tous les jours. Je peux en témoigner pour échanger aussi avec eux, pour avoir des remontées de terrain. Vous savez, dans cette crise, les parlementaires ont été extrêmement utiles parce que ce sont des capteurs sur le terrain et donc au jour le jour, ils remontent ce qu'ils ressentent. Il faut s'adapter, il faut vivre avec le virus.
Il y aura des confinements.
Et oui, ça nécessite parfois d'être un peu agile.
Il y aura des confinements partiels. Ça, c'est Jean Castex l'a dit.
C'est effectivement le bon sens là aussi. Tout pour éviter le reconfinement généralisé.
Alors hier, votre mouvement, Stanislas Guérini, La République En Marche, a organisé son campus de rentrée à Amiens avec la volonté de faire une sorte de maison commune pour soutenir la politique du gouvernement, une sorte de coalition et élargir en même temps sa majorité. Ça va fonctionner comment, cette sorte de coalition? D'ailleurs, ça s'appelle comment? Une coalition? Un dépassement, c'était le mot à la mode hier, le dépassement.
Parce que c'est ce que nous portons depuis 2017. Le président de la République, j'entends certains qui voudraient en faire de toute façon le candidat d'un camp. Moi, je dis que le président de la République n'est pas le candidat d'un camp. Il est celui qui, depuis 2017, veut dépasser les clivages dans la vie politique. Et nous devons absolument poursuivre à faire ça, particulièrement parce que la situation du pays l'impose. Cette situation exceptionnelle, mon sentiment profond, c'est que plus que jamais, on doit dépasser ces clivages qui étaient des clivages artificiels dans la vie politique.
Et donc, il l'est d'autant plus que le début du quinquennat a été, on va dire, libéral et que la suite est plus démocrate.
Je ne crois pas. Sincèrement, je ne partage pas cette idée. Nous sortons d'une phase, pour prendre la phase la plus récente, où l'État a employé, a nationalisé 13 millions d'emplois. Il n'y a pas un pays au monde où l'emploi a été mieux protégé, où le pouvoir d'achat des Français était mieux protégé. C'est une politique néolibérale, c'est une politique libérale que de faire ça. Pardon, mais je crois pas. Quand on prend un peu de recul par rapport à ce qui se passe dans les autres pays, on voit que, au contraire, les fonds de solidarité pour les plus précaires, la prime de rentrée qui a été versée, je ne prends que des mesures les plus récentes. Ça n'est pas une politique libérale. C'est le contraire de cela. Et donc, vous voyez, je crois que ces grilles de lecture, elles ne sont plus signifiantes. Et donc, pour répondre à votre question, c'est ce que, entre partenaires de la majorité, avec notre partenaire historique, le MoDem, mais aussi avec tous ceux qui nous ont rejoints depuis, nous avons dit il faut continuer à élargir, à se rassembler. Et ça dénote. Regardez, dans cette rentrée politique, j'ai l'impression que tout le monde ne pense qu'à l'élection présidentielle de 2022. Les divisions reviennent. Ici, c'est qui sera candidat. Ici,
enfin,
c'est
le
qui
mot, c'est surtout le rassemblement. Et vous n'y échappez pas. Vous voulez rassembler à votre tour.
Bien entendu. Et je crois qu'au contraire, ça dénote dans la vie politique française d'avoir des gens qui veulent travailler ensemble quand tout le monde se divise et ne pense qu'à l'élection prochaine.
Une maison commune avec comme pilier La République En Marche et le MoDem, sauf qu'hier, François Bayrou a mis un peu ses conditions. Il veut plus d'estime de la part de l'exécutif à son égard, plus d'écoute.
Oh, sincèrement, je l'ai écouté très attentivement puisque nous l'avions invité.
Il était là pour parler chez
exprimé.
Vous.
Oui. Je n'ai pas entendu ce besoin d'estime ou quoi. Ce que dit François Bayrou.
Ah bah pardon, on va retrouver l'extrait si vous voulez, mais il disait ça dans ces termes. Okay. Il faudrait un peu plus d'estime pour que l'on travaille ensemble, un peu plus d'écoute.
Le fait même de l'avoir invité, ça veut dire qu'il n'est pas partie prenante, en tout cas au départ, de ce qui existe.
Pardon, pas de confusion. L'année dernière, j'ai organisé, c'était la première fois que j'organisais en tant que délégué général, un campus de rentrée à Bordeaux, et François Bayrou était invité parmi nous. C'est le campus de La République En Marche. Hier, c'est le campus de La République En Marche. Et François Bayrou, ce partenaire historique, était avec nous. C'est bien normal. Il a dit des choses que je partage profondément. Ce que nous devons construire, ce n'est pas la fusion-acquisition des différentes organisations voulant en effacer l'identité et faire qu'il n'y ait plus qu'un seul grand parti central. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de pouvoir fédérer des gens de bonne volonté, pas que des partis politiques d'ailleurs. Vous savez, les gens, à juste titre, s'intéressent pas forcément à la vie partisane de tel parti qui décide de faire ensemble. Moi, je crois qu'il faut ouvrir encore plus largement. Et je partage cette vision avec François Bayrou. Ouvrir, rassembler des associations d'élus, des think tanks, des intellectuels, des citoyens même qui veulent pas s'engager dans des formations politiques, mais qui se disent, ces gens-là, ils ont l'intérêt du pays en tête. Ils ont l'intérêt du pays en tête. Ils ne pensent pas qu'à la prochaine élection. Ils veulent agir. Je crois qu'ils ont démontré pendant cette crise, qu'ils ont été à la hauteur de la situation. On veut continuer à être à la hauteur de nos ambitions pour le pays. C'est l'objet, notamment, du plan de relance, de ces 100 milliards d'euros qu'on décide d'investir pour transformer notre modèle de production, pour le rendre plus écologique, pour changer la France demain. Bien, ceux qui veulent faire cela avec nous, il faut absolument pouvoir les accueillir.
Cette maison commune, vous l'appelez comment ? Une coalition ?
Nous n'avons pas du tout encore décidé de la forme. Ce que nous avons dit entre nous, c'est qu'il y avait cette volonté de se rassembler, qu'on allait travailler à construire cette forme, et puis qu'on allait avoir quelques travaux pratiques dans les semaines et les mois qui viennent. Faire mieux travailler les différents groupes de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, au Sénat. C'est évidemment utile pour gouverner, pour porter nos projets, mener les prochaines élections départementales, régionales, de façon unie. C'est aussi un message que j'ai passé hier.
Parce qu'il faut rappeler que les élections locales, pour La République En Marche, c'est toujours un peu délicat. Vous n'avez pas le réseau, vous n'avez pas le maillage local pour, on l'a vu aux dernières municipales, vous n'avez pas le maillage qui vous permet de prétendre à des postes.
Là aussi, je crois qu'il faut se dire la vérité. Ces dernières élections municipales, c'était pour nous une première cicatrice électorale. On a été très déçus d'un certain nombre de résultats. On pensait aller plus fort dans des grandes villes notamment, ça n'a pas été le cas.
Quelles leçons tirez-vous pour les régionales ? Quelle sera votre stratégie pour les régionales,
pardon,
d'ailleurs ?
Un mot, mais disant cela, je ne mésestime pas non plus le fait que beaucoup de gens qui ne faisaient pas de politique ont été élus avec nous, aussi conseillers municipaux. C'est vrai aussi, dans des petites villes, il y a aujourd'hui 10 000 conseillers municipaux de La République En Marche. Cela compte. Mais j'en tire des enseignements, notamment celui de rassemblement par rapport à la division. Ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que nous avons été divisés, en réalité, on ne s'est parlé qu'à nous-mêmes.
Et donc,
on était incapable de porter un discours envers les Français, envers les électeurs dans le cadre d'une élection. Et donc, je crois que si je devais donner un premier élément pour les prochaines élections, c'est qu'au niveau de la majorité présidentielle, zéro division. Voilà ce que j'ai dit hier à Amiens.
Stanislas Guérini, vous êtes aussi député. Vous avez à l'Assemblée un nouveau président. Il s'appelle Christophe Castaner, président de groupe La République En Marche. C'est donc l'homme du président Macron qui a été élu. Fallait-il absolument un groupe solidaire à l'exécutif ? Je dis ça parce que sa rivale, Aurore Berger, avait une ligne plus dissidente. Finalement, c'est la voix du patron qui a été retenue.
D'abord, moi, ce que j'ai trouvé très positif dans cette campagne, ou rappelez-vous, parce qu'il faut quand même toujours revenir quelques jours en arrière, on nous disait ça va être le déchirement dans le groupe de La République En Marche, ils vont se taper dessus, ils vont retourner des clivages entre la droite et la gauche, puisque les différents candidats ne viennent pas à la base du même horizon politique. Que nenni, ça n'a absolument pas été ça.
Non,
les candidats, et je salue Aurore Berger également, ils ont porté cette volonté, justement, eux aussi, de dépasser ces clivages-là et de rassembler. C'était l'atmosphère de nos journées parlementaires, j'en reviens. Il y a vraiment cette volonté-là qui est partagée. Ensuite, sur la loyauté à l'exécutif, mais personne ne la remettait en cause. Jamais Aurore Berger n'a remis en cause la loyauté à l'exécutif.
Il ne s'agit pas de loyauté ou pas, il s'agit de courants différents.
Même qu'elle défend extrêmement loyalement depuis le début du quinquennat nos réformes.
Est-ce que le groupe va tenir compte du courant Aurore Berger ?
Il faut qu'il fasse, il n'y a pas de courant Aurore Berger, le courant Christophe Castaner, il y a un groupe qui a envie d'être utile. Je crois que ça, c'est ce qui est très important. Et un groupe parlementaire, la crise encore l'a montré, il est profondément utile quand il est sur le terrain, quand ses capteurs sont allumés et qu'il peut remonter pour nous dire là, il y a une bêtise qui est en train d'être faite. Là, par exemple, les thèses dont nous parlions à l'instant, il y a un truc qui marche pas dans nos villes, les citoyens viennent nous voir, nous remontent, et là, il faut qu'il puisse
donc
faire entendre sa voix.
Et une seule voix. Que va devenir le courant Aurore Berger qui demande plus d'émancipation par rapport...
Et où sont les femmes ?
Alors, c'est plusieurs questions à la fois, mais...
Sur le courant Aurore Berger.
Il n'y a pas de courant Aurore Berger. Non mais je vais être très, très clair là-dessus, il y a un groupe qui veut faire entendre sa voix.
Qu'il y a une hémorragie au groupe La République En Marche, il y a des gens qui vous quittent en ce moment pour aller au Modem, pour aller ailleurs, parce qu'ils estiment qu'il y a une gestion trop verticale qui vient d'Élysée.
Vous avouerez qu'il y a pire situation pour une majorité présidentielle que des gens qui
Mais vous avez perdu la majorité absolue.
Pour aller sur le palier d'en face et qui ne quittent pas l'immeuble.
Vous avez entre-temps perdu la majorité absolue.
Je le dis parce que parfois on a une lecture de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on disait « Oh là là, c'est vraiment le désordre, etc. » Moi j'ai vu dans les quinquennats précédents des majorités qui tout au long du quinquennat se rétrécissaient. Vous en connaissez beaucoup, vous, des majorités qui au contraire aujourd'hui s'élargissent, dont les textes sont votés aujourd'hui avec plus de voix qu'au début du quinquennat. Je crois que c'est assez inédit aussi dans la Ve République. Donc, pas de courant, mais la volonté d'être utile pour chacun des textes de loi. Et il y aura des moments législatifs très importants. Je pense au moment où nous étudierons les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Oui, il faudra être attentif à ce que ces propositions-là soient bien portées.
Sur la loi sur le séparatisme qui va arriver,
quand nous travaillerons sur le séparatisme.
Il y aura sûrement des divergences.
Et les femmes.
Bien.
Les femmes tête de parti, de groupe, pourquoi pas une femme Premier ministre ?
Mais, et bien sûr que nous avons besoin de plus de parité. Mais je pense que cette élection, elle a permis cela. Il y a quelques semaines encore, on disait à chaque fois qu'il y a une élection à La République En Marche, vous votez à 90%, les votes sont faits par avance, etc. Là, il y avait deux candidatures finalistes, et d'autres candidatures d'ailleurs féminines, que je salue aussi dans cette campagne. Deux candidatures finalistes, les résultats ont été serrés. Et donc c'est bien la preuve qu'il y a une vie démocratique, que la question de la parité, elle est portée dans notre groupe. Ensuite, il faut que la démocratie interne se fasse, et c'est le choix du groupe.
C'est un week-end aussi où les Gilets jaunes vont tenter de faire entendre, réentendre leurs paroles. Ils espèrent la même mobilisation que celle de l'an dernier, cette mobilisation qui avait pas mal écorné l'image de la politique et de la politique du chef de l'État. Est-ce que c'est un retour qui inquiète la majorité aujourd'hui, ce retour des Gilets jaunes ?
Notre attention, c'est qu'il y ait de l'ordre dans le pays. Je crois que c'est ce que demandent nos concitoyens. Je pense, moi qui suis un député parisien, à ce que nous disent les commerçants. Ils sont, pour certains, vraiment au bord de mettre la clé sous la porte, avec ce qu'ils ont vécu. Samedi après samedi, ce qu'ils ont vécu évidemment avec la crise sanitaire. Donc je crois que ce qui est l'attendu, c'est que nous ayons la capacité à permettre l'expression des mécontentements, évidemment, ils sont légitimes et chacun a le droit de les exprimer, mais dans l'ordre. Je crois que c'est cette ligne-là. J'ai dit hier à Amiens que la ligne de La République En Marche était celle du respect, de remettre du respect dans la République, celui qu'on doit aux forces de l'ordre, aux professeurs, à l'élu, à l'aîné. Et puis symétriquement, le respect qu'on doit à l'élève, au présumé innocent, au mécontent, à l'administré. Je crois que le respect, c'est la ligne de La République En Marche.
Et vous redoutez qu'il n'y ait pas de respect aujourd'hui à Paris comme dans d'autres villes où des rassemblements ont été interdits, ils iront tout de même manifester ?
Bien, je ne redoute pas parce que ça n'est pas mon rôle, mais je suis avec mes collègues de la majorité parlementaire, avec le gouvernement, attentif à ce que les choses puissent se faire dans un respect républicain.
Merci Stanislas. Merci Guérini, délégué général de La République En Marche. Vous poursuivez ce week-end vos journées de rentrée ?
Eh oui, je pars à côté de Valence, puisque nous avons fait le choix de faire des campus régionaux, puisque La République En Marche est un mouvement territorial.
Eh bien, merci d'être venu nous en parler ce matin sur France Inter, et bonne journée.